Bien, je crois que voilà, on a le son, mais on n'a plus l'image.
On l'a. Allez, elle est là. Moi.
La revoici.
Oh merde, pardon.
Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus. Ce soir, c'est la quatrième conférence du cycle sur écriture et photographie que nous organisons entre le Master Littérature et Culture de l'Image à l'UFR Lettres et Langues et l'Espace Mendès France en la personne d'Anne Bonnefoy, que je remercie encore. Après avoir entendu trois collègues universitaires qui étudient les rapports entre écriture et photographie, donc on a entendu Chloé Conan-Wacked au début, puis Marc Tamisier, philosophe, ensuite Magali Nachtergaele, qui est aussi une collègue, on aborde cette semaine ceux qui n'étudient pas le rapport, mais qui écrivent sur la photographie. Nous recevrons la romancière Anne-Marie Gara jeudi à 18h30. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédérique Chapuis, dont le métier est d'écrire sur la photo, puisqu'elle est Frédérique Chapuis est critique photo à Télérama. Alors, dans le supplément de Télérama Sortir, le dernier en date, vous savez que Télérama arrive mercredi, donc ça c'est celui qui s'arrête aujourd'hui. On a en couverture une très belle photo de Robert Adams, avec à l'intérieur un article de Frédérique, et puis aussi d'autres textes, petits textes, qui concernent les expos en cours. Je le fais passer pour ceux qui veulent regarder. Donc Frédérique Chapuis est critique depuis une bonne trentaine d'années, on va
une
dire.
vingtaine d'années.
Oups, désolée.
Non, non, mais je suis à Télérama depuis 27 ans, mais critique depuis... Enfin, critique, j'écris depuis 20 ans maintenant. Mais avant, j'ai fait autre chose. Je vous raconterai.
Et donc, on lui a demandé... Alors, en dehors de la critique photo, et peut-être en parleras-tu également, il y a bien sûr le commissariat d'exposition. Il y a aussi les textes pour accompagner les œuvres de photographes. Je pense par exemple à deux ouvrages parus ces dernières années aux éditions Filigrane, l'un sur Oumarly, un photographe sénégalais qui s'intitule Portrait de brousse, et puis les carnets de charbon de Gabriela Lupu, une photographe roumaine. Tu accompagnes ces photographes et leurs photographies dans ces deux livres donc, qui sont chez Filigrane. Donc c'est à toi qu'il fallait aussi poser cette question. C'est quoi écrire sur la photo? Comment ça s'écrit? Voilà, donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation.
Eh ben, bonsoir à tous et puis merci à Anne Bonnefoy et Anne-Cécile Guilbard pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Pour parler de mon métier. Donc voilà, j'ai mis en préambule une photographie derrière, là, qui est une photographie de Denis Roche. On y voit un appareil photo dirigé vers nous, vers vous plutôt, et qui est donc dans mon dos à moi. L'opérateur n'est pas là, donc il va peut-être venir, le photographe va peut-être venir faire la photo, et je trouvais que c'était une jolie façon de rentrer en matière, c'est-à-dire de se poser la question de l'opérateur et puis du regardeur aussi. Donc, moi, je suis, comme le disait Anne-Cécile, à Télérama depuis maintenant 27 ans. Et j'ai commencé, en fait, pas du tout par des études de journalisme. J'ai pris des chemins de travers. J'ai commencé par faire de l'architecture, des études d'architecture. Parce qu'à l'époque, quand je suis sortie du lycée, mon livre de chevet, c'était Construire avec le peuple d'Hassan Fathi. Donc je suis rentrée en architecture plutôt par militantisme qu'autre chose. J'avais envie de révolutionner l'urbanisme et voilà. Et en fait, au bout du bout, je voulais être opératrice. À l'époque, c'était donc les années 86. Il y avait deux opératrices femmes en France et j'avais décidé que je serais la troisième. Donc j'ai passé le concours de l'école Louis Lumière. J'étais pas très douée en matière scientifique, donc je l'ai raté. Et du coup, je me suis orientée vers les arts plastiques. Non pas par dépit, parce que les arts plastiques m'intéressent. J'ai toujours eu une passion pour l'art. Et je me suis retrouvée en arts plastiques où j'ai travaillé sur un tout autre domaine que l'image, c'est sur le son et la sculpture. Donc j'ai fait une maîtrise d'arts plastiques sur l'environnement sonore. Et j'ai inventé le graffiti sonore, voilà. J'ai exposé en galerie, enfin bon, j'ai pensé être artiste. Et puis j'ai eu un premier bébé. Et le hasard de la vie, une amie me dit, Je travaille à Télérama et j'ai besoin d'une remplaçante. Est-ce que tu veux venir à Télérama me remplacer au service photo ? Je lui dis oui, pourquoi pas. À l'époque, je commençais déjà à travailler en intermittente dans une agence de communication où je faisais de la scénographie d'exposition et du graphisme. Donc je vais à Télérama, j'arrive à Télérama, au service iconographique. Donc le service iconographique, c'est, pour ceux qui ne savent pas précisément, c'est donc le service qu'on appelle photo. On a des articles qui arrivent, qui ont été rédigés par les journalistes, et on doit trouver les images pour accompagner les articles. Donc à l'époque, donc 86, mon premier emplacement à Télérama, on reçoit les photographies essentiellement qui viennent des services de presse. Presse cinéma, des éditeurs et de la télévision. Donc on a, je ne sais pas si certains s'en souviennent, on a toujours l'éternel plateau télé pour illustrer l'émission. Et voilà. Et donc je fais un remplacement et puis j'en fais un second. Et puis un jour, la personne qui avait le poste d'iconographe à Télérama part en formation pour 2 ans. Et on me dit, bah, est-ce que vous voulez vraiment la remplacer pour 2 ans ? Alors, je dis, bon, oui, finalement, je m'installe à Télérama pour 2 ans. Et là, je commence à réfléchir à la question de la photographie dans la presse, du rapport du texte à l'image. Et je dis, bah, il serait peut-être temps, nous, Télérama, qui parlons à longueur de temps d'image, de cinéma, d'exposition, il serait peut-être temps qu'on produise nos propres images. Donc c'est comme ça que je commence à faire photographier l'écrivain qui est là toutes les semaines et qui est choisi par la chroniqueuse qui est Michel Gazier à l'époque. Et je dis, bon, ben, ça suffit, ces images en noir et blanc qui datent de 10 ans de l'écrivain qui est à Paris. Donc s'il est à Paris, faisons-le photographier. Et c'est comme ça que je me prends au jeu et puis, de plus en plus, je fais faire des photographies pour le journal. Il y a une nouvelle maquette. Et c'est formidable parce qu'on se retrouve à avoir une vraie identité. À Télérama, il y a un autre journal aussi qu'il ne faut pas oublier, qui à l'époque est très important pour tout ce qui est image, qui est Libération. Libération avec Christian Cojol, qui a donc aussi fait un énorme travail autour du rapport du texte à l'image. Et puis, surtout de l'image comme étant un possible document et une information supplémentaire. Et non pas, moi, ce que j'appelais tout le temps, quand les journalistes venaient nous voir en disant « Bon, alors j'ai parlé de ça, il faut que tu trouves l'image qui correspond à ça. » Et moi, je disais « Mais arrêtons de faire du miaou-miaou, c'est-à-dire qu'on a ça écrit dans le texte et on doit avoir ça dans la maquette. » Donc voilà, j'ai passé 8 ans là, au service photo de Télérama. Donc c'était des années où la presse marchait plutôt bien, on avait de l'argent, on pouvait faire des reportages, envoyer des gens travailler un peu partout dans le monde. Ça allait faire des reportages pour des films qui se tournaient à l'autre bout du monde, envoyer des photographes faire le portrait de Youssou N'Dour au Sénégal parce qu'il venait de sortir un disque. Enfin voilà, c'était les grandes années. Maintenant, j'aime autant vous dire que c'est évidemment plus du tout comme ça. Et puis, moi, j'étais très intéressée par l'Afrique. J'ai une enfance africaine, j'ai grandi au Sénégal. Et j'allais régulièrement en Afrique et je m'intéressais donc aux photographes africains. Et par exemple, Youssou N'Dour, je disais, bon, ben, on va essayer de faire travailler un photographe qui est sur place. On ne va pas demander à un Français d'aller photographier Youssou N'Dour, ce qui est un peu idiot. Surtout qu'il y avait des très bons photographes, de jeunes photographes africains. Et les éditions de la Revue Noire étant une revue trimestrielle consacrée à l'art africain et à la photographie, tout art confondu, ça peut être le théâtre, la musique, les arts plastiques et la photo, qui était beaucoup diffusée en Afrique et puis évidemment à Paris. Donc avait une édition et ils ont décidé un jour de s'intéresser aussi très fortement à la photographie, c'est-à-dire on a décidé de faire une anthologie sur la photographie africaine, c'est-à-dire que la question qu'on s'est posée, c'est on voit toujours des photos d'Afrique faites par des Européens et qu'est-ce que les photographes africains photographie, quelles sont ces images qu'on ne voit pas, qui n'arrivent pas jusque nous, un peu comme le cinéma africain qu'on voit rarement, sauf dans les festivals. Et donc on a travaillé une anthologie, c'était la première du genre, c'est donc on a commencé à y travailler en 96. C'est vraiment une somme, elle pèse 3 kilos. C'est un boulot, on a mis 2 ans à fouiller partout. On a envoyé des gens qui nous ont aidés à réunir des documents. Et donc, j'ai travaillé à l'anthologie de la photographie africaine en parallèle à Télérama. Et puis au journal, ils m'ont dit, écoute, puisque tu t'intéresses tant à la photographie, que tu écris sur la photographie maintenant, est-ce que tu ne veux pas parler de photographie? Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de photographie dans les pages de Télérama. Serge Danet parlait du cinéma, donc parlait aussi un petit peu de l'image. Christian Cojol avait une première chronique. Et il y avait Hervé Guibert au Monde qui parlait de photos, jusqu'à ce qu'il décède en 85, je crois. Mais à part ça, on ne parlait pas de photos. Enfin, la photo, c'était de l'illustration. Au mieux, c'était du photojournalisme, donc de la photographie d'actualité. Il y avait Paris Match pour ça, qui montrait des photos. Il y avait Photo, le magazine Photo, qui noyait toute une série de... Tout un melting pot de genre de photographie. Et donc, je me suis dit, oui, je veux bien. Donc, je suis vraiment... C'est comme ça que je suis devenue journaliste à Télérama. En passant lentement, je ne suis pas tout de suite passée à plein temps au service, à la rédaction. J'ai continué à faire de l'iconographie et puis j'ai commencé à écrire les premiers papiers. C'était aussi une époque, si elle était bénie pour la photographie, elle était aussi bénie pour les journalistes, parce qu'à Télérama, les gens de ma génération, on est nombreux à avoir débarqué là. Michel Gazier était un prof de lettres, en même temps elle écrivait ses romans. Il y avait un chroniqueur qui avait fait des études de médecine et qui était passionné par l'art et qui voulait absolument écrire sur l'art et qui avait fait le pied de grue pendant des années pour rentrer à Télérama. Alors, il avait commencé, je crois, par le secrétariat de rédaction ou même, je crois que c'était la documentation. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, c'est quand même Olivier Sénat qui est à Télérama. Mais on était tous comme ça. Voilà, c'était juste la passion ou l'intérêt qui nous amenait à écrire à Télérama. Je crois que c'était un peu pareil à Libération, un peu pareil au Monde. Aujourd'hui, les jeunes journalistes qui rentrent à Télérama, il y en a. Beaucoup de gens sont partis avec notre achat par le Monde. Donc, il y a eu des embauches de jeunes gens. C'est des gens qui sortent des écoles de journalisme, donc qui sont très efficaces, qui ont un vrai métier. Et sans doute, on a, je pense, perdu un petit peu de ce qui faisait la spécificité de Télérama, c'est-à-dire qu'on avait des genres d'écriture un peu plus multiples, quoi, pluriels, et qu'il n'y avait pas. Voilà. Mais c'est pas plus grave que ça. Et donc je me suis posé la question de ça veut dire quoi écrire sur la photographie et qu'est-ce que j'ai envie d'en dire. Donc je me suis dit il y a plusieurs façons d'aborder la question. On a un avis personnel qui est plutôt la posture du chroniqueur ou du soit on a une posture d'analyste, donc on a l'analyse qui est plutôt une posture de je dirais qu'on retrouve dans les journaux spécialisés comme Art Press ou comme les journaux vraiment spécialisés photographie. Soit on a une posture de journaliste, c'est-à-dire qu'on fait un compte-rendu sans vraiment s'impliquer, ce qui est peut-être la façon la plus commune de s'exprimer dans la presse. Et moi, je me suis dit, je ne sais pas très bien faire du journalisme. Je ne sais pas très bien... Est-ce que j'ai envie d'être critique? C'est-à-dire critique, si on reprend le sens premier du terme, qui veut dire en grec « cri », c'est-à-dire qu'on doit être contre, absolument contre. Les critiques, c'est ce qu'on... Souvent, on dit le critique, c'est celui qui est contre, qui s'oppose, qui... Moi, je me suis dit, je vais peut-être avoir une posture de biais, plutôt, et je vais regarder les choses et je vais essayer de comprendre. Je me disais que la photographie était peut-être une des choses les plus étranges, c'est-à-dire qu'on est tous là, si vous sortez votre appareil, votre téléphone, vous faites une photo, là, on peut le faire, on fait une photo, et bien on va regarder, chacun va montrer son téléphone et il n'y aura pas la même photo, alors qu'on est au même endroit, que vous allez tous me photographier et photographier. Je vais vous remettre de la déco. Ah, elle est partie. Voilà. Ça, c'était pour l'anthologie de la photographie africaine. Je reviens. Donc ça, c'est la couverture de l'anthologie de la photographie africaine. C'est une photo faite par un Congolais, André Faitas. Et donc, en 39, elle est prise en 39. Et il fait donc une photo d'un groupe de femmes qu'on voit là, qui est placé devant une tenture en plein air. Et tout le monde le regarde. Et voilà, c'était donc... l'objectif de l'anthologie était de dire l'Afrique par elle-même, quoi, et non plus l'Afrique par les autres. Donc voilà, on avait mis cette photo-là parce qu'on l'a trouvée assez emblématique de notre projet. Donc ensuite, là, tout à l'heure, Anne-Cécile a parlé d'Oumarli. Donc Oumarli, c'est un vieux monsieur que j'ai découvert au nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie, un Sénégalais. Et il faisait des portraits. Alors, je pense que vous avez dû voir des photos de photographes africains. On a parlé de Malick Sidibé, de Sédou Keïta, peut-être ces gens-là. C'est beaucoup de portraits. En Afrique, on fait beaucoup de portraits. Et quand on pose la question aux photographes, j'avais posé la question à Malick Sidibé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas de paysage? Puis il m'a regardé, il m'a dit, mais moi je suis dans le paysage. Pourquoi veux-tu que je fasse du paysage? Puis il m'a dit, mais est-ce que le paysage va me payer ma carte? Donc la carte étant ce qu'on a, la photo. Donc il me dit, mais non, je ne vais pas faire de paysage. Donc on fait essentiellement de la photographie. Et aujourd'hui encore, sauf maintenant les jeunes photographes, évidemment, si on va voir les Sud-Africains, mais encore pas partout, on fait essentiellement de la photo d'identité ou de la photo pour des portraits qu'on garde chez soi, des portraits qu'on donne, des portraits voilà, de la famille. Et ce monsieur Oumarli, que j'ai découvert un peu par hasard en faisant mes recherches sur le Sénégal, sur l'histoire du Sénégal, l'histoire photographique du Sénégal, il est arrivé un jour avec des plastiques remplis de négatifs, de photos collées. Et puis, je me dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, c'est mon travail. J'ai commencé en 59 et il n'y avait personne. J'ai commencé justement au moment des indépendances. L'indépendance sénégale était en 61. On m'a demandé d'aller dans les villages et d'aller faire des portraits d'identité, puisqu'il fallait donc faire recenser tout le monde, tous les gens qui étaient là après, au moment de l'indépendance. Et il est arrivé dans les villages, et là, c'est une photo, par exemple, qui m'a fascinée, parce que j'en avais pas vu beaucoup. J'avais vu beaucoup de choses, beaucoup de photos, mais faites en studio. Et ça, c'est une photo où, finalement, il fait poser cette femme, qui donc c'est un portrait, pour une photo d'identité, et comme il n'a pas de fond, il va demander au monsieur de tendre les bras, et ça va être le boubou qui va être le fond. Et il avait trouvé plein d'idées comme ça, pour avoir ses portraits. Et puis il en mettait trois d'un coup aussi, parce qu'après il découpait, donc il utilisait qu'un négatif, il faisait une économie conséquente comme ça. Donc ça voilà, c'est ce dont je vous disais, ça c'était les photos de studio plus courantes, à la mode européenne, les studios reprenaient parfois les décors, des fois il y avait des toiles peintes, et on avait l'avion ou la mosquée, où ça dépendait ce qu'on avait envie d'avoir comme fond. Ça, c'est toujours Oumarli. Donc Oumarli, pareil, qui dans une cour, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, le sol chavire et il a mis... Alors ça, c'est vraiment pas de la photo d'identité. Pour le coup, elle voulait se faire photographier. C'est peut-être deux sœurs ou je ne sais pas quoi. Et je les trouve, voilà, trop... Alors, elles ont vraiment tous les attributs des femmes du nord du Sénégal, c'est-à-dire sahéliennes, avec les gros bracelets aux chevilles et puis le vêtement pour se protéger du soleil. Ça, c'est un autre Sénégalais qui est Mama Kassé. Mama Kassé, c'est un des précurseurs aussi de la photographie sénégalaise. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des fixés sous verre, ces peintures sous verre colorées. C'est une tradition sénégalaise, en tout cas pas que sénégalaise, mais en Afrique, elle est vraiment très, très, très importante. Et les fixés sous verre se sont beaucoup inspirés de Mama Kassé. Si un jour vous avez l'occasion de tomber sur des fixés sous verre, les femmes ont toujours cette posture-là. Il avait aussi une posture favorite où la femme, comme ça, avait la tête posée sur les mains. Et donc voilà, on a retrouvé toutes ces choses-là qui sont donc ces premières photographies. Elles datent du début du 20e, 1910 jusqu'à 1930. Et elles ont inspiré nombre de grands peintres de fixés sous verre. Donc comment la photographie a glissé et inspiré les... C'était plus qu'un art... C'était vraiment un... Il y avait certains peintres de fixés sous verre qui étaient vraiment très, très brillants. C'était plus qu'un art, trouvé sur les marchés, quoi. C'était plus que ça pour certains. Bon, là, ça, c'est autre chose. Voilà, donc, Je suis passée par l'anthologie, par la photographie. Et donc, je reviens à cette question, c'est comment je vais parler de la photographie? Donc, moi, je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est quand même assez miraculeux. On voit tous la même chose, on prend tous un appareil photo au même moment, au même endroit, et personne ne fera la même photo. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est inépuisable? Et donc, je me suis dit, je vais aller à la. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, c'est de savoir comment ils procèdent, quelles sont leurs histoires. Et je me disais que je pense qu'un photographe, et le travail du photographe, d'un auteur, c'est aussi un autoportrait. Donc il faut en comprendre les tenants et les aboutissants. Il suffit pas de dire c'est beau ou ça appartient à tel courant de l'histoire. Ça, c'est effectivement important de le signaler, mais pas que. Je pense que pour donner envie, il faut avoir de l'empathie, en tout cas, il faut aimer l'artiste, le photographe, pour avoir envie d'en parler et pour avoir envie de partager avec lui sa passion ou son travail et de le faire connaître. Donc j'ai commencé par choisir des expositions. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'aimais, dont je n'aimais pas parler. Le nu, par exemple, je ne sais pas pourquoi. Le nu ne m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est un domaine. Alors, il m'arrive d'en parler, évidemment, mais c'est un domaine qui ne m'intéresse pas vraiment. J'aime beaucoup le paysage, j'aime beaucoup le photojournalisme, j'aime beaucoup la photographie qu'on appelle documentaire. J'aime pas non plus tellement les essais, les surexpositions, tous ces essais qu'ont fait les photographes dans les années. Dans les années 50, dans les années et avant. Je trouve ça très honorable, mais disons que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis plus intéressée par. Alors, j'ai l'Afrique, je pense que c'est important. C'est-à-dire, je suis intéressée beaucoup par les photographes qui viennent d'ailleurs, les photographes étrangers, ceux qu'on ne connaît pas beaucoup. J'ai mon passage en art plastique, donc j'ai aussi d'une certaine façon mis la main à la pâte. Je sais de quoi il est question quand on fait une photographie ou quand on a envie de faire un travail. Donc voilà, je subodore quelles sont les questions que tel ou tel photographe peut se poser. Dans le graphisme, j'ai aussi travaillé sur le graphisme et puis au journal sur le rapport du texte à l'image. Donc. Et puis de l'image dans une exposition, c'est-à-dire que je pense que c'est fini l'époque où on va voir une exposition et on trouve des photos, ou on peut encore en trouver, parce que je vais vous montrer un exemple. Les photos accrochées les unes à côté des autres. Enfin, je veux dire, il y a plus que ça à dire avec la photographie, en tout cas avec sa mise en espace. Donc voilà, je me suis dit, je vais aller à la rencontre des photographes. Et en fait, très curieusement, j'ai jamais eu vraiment peur. J'ai rencontré, vraiment, je crois pouvoir dire, parce que ça aussi, c'est une chance, c'est qu'à Télérama, il suffit de prendre son téléphone et dire je veux vous rencontrer. Et on dit oui. Personne ne m'a jamais dit, oh, je n'ai pas le temps. Donc ça, c'est vraiment un cadeau. J'avoue que. C'est vraiment formidable. Et finalement, je suis plus impressionnée d'être là devant vous que d'aller voir, je ne sais pas, Gursky, Robert Adam, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est pas venu, que d'aller voir des photographes. C'est parce que je pense qu'il y a ça, il y a le fait que j'ai fait aussi des études d'art plastique et que je ne suis pas dans un. Je suis pas une journaliste au sens propre du terme. Je suis dans une autre relation, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le métier de critique? Donc, je m'intéresse à ça, au travail du photographe. Je vais vous donner, par exemple, trois exemples. Non, je suis partie dans le mauvais sens. Alors là, c'est pas très bien. J'ai pris un article, mais on m'a envoyé ça du journal. J'ai la moitié de l'article, mais c'est pas très grave. Parce qu'après, je vais vous montrer des images. Il s'agit de Marc Cohen. Marc Cohen, qui est un. Ah bon, vous l'avez en deux fois. Marc Cohen, qui est un photographe américain. Première exposition à Paris. Et je reçois un carton, je crois que c'était cette image-là d'ailleurs sur le carton. Je me dis, mais qui est ce bonhomme? Et donc ce bonhomme a grandi dans une ville de Pennsylvanie, une petite ville minière. Et il a fait les études de sciences parce que sa mère voulait qu'il soit ingénieur. Donc il a fait les études de sciences et en réalité, il a découvert la photo parce que je crois que c'est son cousin qui lui a donné un appareil photographique. Et il a fait des photos et il a commencé à l'âge de 13-14 ans à vendre ses photographies pour se faire un peu de sous. Il tirait les portraits à ses copains et puis il vendait ses photos. Et puis il est parti faire ses études de scientifique et finalement il est revenu, il les a abandonnés au cours de route. Il est revenu et il a décidé que c'était absolument pas ça qu'il voulait faire, c'était de la photographie. Donc il a ouvert un studio dans cette ville. Et un studio de photos classique avec portraitiste, un peu comme les Africains qu'on a vus là tout à l'heure. Et il a fait de la photographie pendant 40 ans. Et il faisait à côté de ça un travail personnel qui était que tous les matins, il se levait et il allait voir, il allait se promener dans les quartiers. Alors je vais vous lire un truc parce que c'est des choses qu'il m'a dites et je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a ces mots. Alors attendez, je vais retrouver... Hop, hop, hop. Ah oui, voilà. Donc, la ville, c'est Wilkes-Barre. C'est une ancienne ville minière. Et il racontait. Je me rendais dans les quartiers ouvriers, là où les gens passent beaucoup de temps dans la rue. Je tournais en rond, retournais des dizaines de fois dans la même rue, sans jamais cadrer les visages. Car autant un regard, c'est quelqu'un, autant une épaule, c'est générique. C'est infini. Je prélevais des visions surréalistes, les dents de l'homme qui rit, une fillette qui se balançait pendue par les pieds. Wilkes-Barre était ma palette. Voilà. Et donc, je l'ai rencontré. Je vais remettre le micro là. Il est venu à Paris, donc je l'ai rencontré et il m'a raconté tout ça. Il m'a fait ses confidences, il m'a parlé de sa maman... Sa maman qui finalement ne voulait pas qu'il parte, donc c'est comme ça qu'il est resté sagement. Il s'est marié, il a eu des enfants, mais il est resté dans la même ville. Et il faisait ses photos avant que le studio n'ouvre ses portes. Et des photos absolument incroyables, quoi. Alors, il tirait ses images en noir et blanc, c'est lui-même qui faisait ses tirages, il avait son laboratoire. Et il me racontait qu'il aimait beaucoup son père et que son père l'avait aidé quand il était jeune à monter son laboratoire et à... Il avait financé son laboratoire parce qu'il n'avait pas d'argent. Voilà, donc il m'expliquait que quand il marchait, en fait, il avait son appareil à bout de bois, il ne cadrait pas. Il prélevait des morceaux de sa ville. Et donc, pour tout à l'heure, on parlait de l'accrochage. Et lui, il a un système qui est celui-ci, c'est-à-dire qu'il pose ses photos les unes à côté des autres, complètement collées. Et alors là, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'il y a un jeu de reflets effroyable. Mais chaque image à côté de l'autre n'est pas là par hasard, quoi. Et c'est une vraie écriture, c'est une ligne comme ça. Et toujours le même format, il tire ses photos au même format et pas un autre. Donc, comme quoi la photographie, c'est aussi, c'est pas simplement déclencher, c'est après tout ce qui vient après. Et donc lui, voilà, il a un format, il tire ses images, il les présente toujours de la même façon et il a toujours le même protocole pour les prises de vue. Donc ça, c'était un de mes coups de cœur il y a 6 mois. Il est venu au bal il y a 6 mois. Un autre coup de cœur, c'est Anders Petersen. Anders Petersen, qui est un photographe suédois. Photographe suédois qui a initié un courant en Suède. C'est comme un Robert Frank aurait initié la street photographie, enfin, en tout cas développé, pas initié seulement. Lui, il a initié la photographie comme journal intime. C'est-à-dire qu'il vit pour la photographie et la photographie est sa vie, en fait. Et il est toujours avec son appareil photo. Et il... Alors, Il a commencé à... Alors, c'est un peu mal fichu, mon histoire, hein, parce que vous avez un bout d'un côté, un bout de l'autre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas... Non, c'est la même image. Je vous la laisse pour l'image. Et Anders Petersen, il a 70 ans maintenant, donc il est pas tout jeune. Il a enseigné la photographie. Il a derrière lui toute une jeune génération qu'il suit. Et il s'est engagé en photographie un peu par hasard, pareil, en allant à Berlin un jour. Il faisait des études d'art. En fait, il voulait être peintre, un peu comme Cartier-Bresson. Il voulait pas du tout être photographe. Et puis, il a vécu, il vivait sans le sou et il était beaucoup dans un quartier de... Et il allait beaucoup dans un café, notamment, où il s'était fait adopter. Il était jeune homme sans le sou. Et il a photographié toute la faune de ce café-là. Et puis, il est rentré chez lui et finalement, il s'est engagé en photographie. Et alors, c'est des photographies où... Voilà. Ça, c'est le fameux café Les Mitz. Donc ça, c'est une des... Je crois qu'elle fait la pochette d'un disque de rock'n'roll, je ne sais plus lequel, mais elle est très, très connue. Alors là, j'ai mis celle-ci aussi parce que, pour bien faire voir comment il est resté longtemps, le jeune homme qu'elle tenait dans les bras, et donc on le retrouve là avec sa cravate, il la regarde, il se regarde. Et donc, il est... c'est quelqu'un qui s'implique très, très fort dans son travail, c'est-à-dire que... Il veut vivre au milieu des gens, il veut aller jusqu'au bout. Alors, c'est un peu... Il n'est pas toujours... Enfin, on pourrait penser que ce n'est pas tendre, mais en même temps, c'est éminemment humain, éminemment tendre. Il est là, il demande aux gens, il s'approche d'eux, beaucoup. Et donc, il avait une grosse exposition qui, je crois, n'est pas tout à fait finie encore, où elle vient de s'achever à la BNF à Paris et puis à la Galerie Vue. Donc, il était de passage et j'ai demandé si je pouvais le rencontrer. Donc on s'est donné rendez-vous, il arrivait juste de Suède, on est allé au café, on a bu un verre, après il me dit j'ai faim, donc on est allé au restaurant, et là il m'a raconté pareil toute sa vie, et à grands coups de skål, parce qu'il boit beaucoup, skål, 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 jusqu'à 2h du matin, et pareil, je lui ai par exemple posé la question, parce que il y a toujours un moment, ce qui est drôle, j'ai remarqué, quand, dans mes entretiens avec les photographes, où on approche de la mystique, ou je sais pas, parler de photographie, parler de l'image. Moi, ça m'a amené une fois en interviewant. Attendez, je vais le retrouver. Photographe américain. Je l'ai perdu. Mais voilà, ça m'est arrivé un jour de poser la question, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que, par exemple, Robert Adams, c'est un photographe dont je vais vous parler après. C'est un photographe qui a fait le séminaire et qui voulait être donc pasteur. Don McLean, voilà, j'ai retrouvé Don McLean, ce photographe, je ne sais pas si vous voyez, qui a beaucoup couvert la guerre du Vietnam, qui a été très, très, très touché, marqué par ça. Il a arrêté de photographier, d'ailleurs, pendant de longues années, pour se remettre au paysage. Et Don McLean me parlait de son travail, et dans ses mots, il y avait quelque chose de vraiment... il y avait beaucoup de ferveur, et je lui ai demandé s'il croyait en Dieu. Je ne sais pas, la question est venue comme ça. Et c'était très étrange, parce que... non, ce n'est pas cette question-là que je vais poser. Je vais poser une autre question que je pose aussi, qui est, mais est-ce que vous êtes heureux? Parce qu'il me racontait tellement de choses horribles, je me disais, mais ce bonhomme, comment il fait pour vivre avec tout ça? Et là, l'interview s'est réinversée, et il a commencé à me dire, maintenant, je le suis. Et il m'a parlé de sa femme, qui est morte d'un cancer, qu'il a tenue dans ses bras, dont il a suivi toute l'évolution de la maladie en photographie. Et donc l'interview est repartie dans un autre sens et je suis rentrée dans une espèce d'intimité comme ça avec cette question qui pour moi allait de sens, enfin allait de soi. Et je suis, voilà, et l'interview et j'ai refait un tour et on est reparti en arrière et on a réenvisagé son travail d'un autre œil, enfin d'un œil, pas d'un autre œil, mais différemment et de façon peut-être plus personnelle encore. Et donc Anders Petersen, je lui pose la question s'il croit en Dieu. Et alors, je vais vous le lire, parce que je ne le connais pas par cœur, et donc je lui demande ça, et il me dit, mais est-ce que je crois en Dieu? Oui, mais qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Voilà, j'ai des difficultés à croire en un Dieu. Je pense qu'il y a une façon d'approcher la vie ou la mort au quotidien, du bon vin, des gens qui sont heureux, c'est ça Dieu. Une bonne énergie positive, c'est ça Dieu. Être infecté par un virus positif. Quand tu as de beaux moments, si tu sens ça au fond de toi, c'est ça Dieu. Croire en l'homme, c'est tellement simple que cela en devient embarrassant. Et je trouvais que c'était... voilà. Ça dit tout du bonhomme, c'est-à-dire ça dit tout de ce travail, voilà, de ce genre de photo, c'est-à-dire qu'il faut être dans la vie, il faut être dans l'énergie et il faut capter des choses. Il n'y a que lui pour faire ça. Nous, on veut photographier ce couple. D'abord, on ne le photographierait pas là, on n'oserait pas, sans doute. Et puis, on ne mettrait pas cette lumière-là, et puis. Et donc, lui, son accrochage, il est encore différent. C'est pour ça que je vous le montre. C'est que lui, c'est vraiment... C'est l'épaisseur. En fait, Anders Petersen, dans ses images, toujours du noir et blanc, hein, que du noir et blanc, on a l'impression qu'il approche, qu'il arrive à traduire l'épaisseur du monde, l'épaisseur de l'espace. C'est comme s'il y avait des couches successives, le papier peint, la lumière, l'ombre, les corps, puis le premier plan. Et il accroche à la BNF, c'était accroché comme ça, c'est-à-dire très très proche, tout était très proche. Et donc on se prend des millièmes de seconde dans la figure comme ça, et c'est très troublant. Et je trouve que lui, c'est un photographe, je dirais, proche de la littérature. C'est quelqu'un qui a un univers presque littéraire. Chaque image est un petit monde et chaque image, les unes à côté des autres, traduit réellement un monde. Donc voilà, Anders, c'était Anders Petersen, ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter à Anders Petersen? Je prends mes notes parce que sinon je perds le fil. Donc oui, c'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse, moi. Comment ça se fait qu'on est tous en train de faire des images à longueur de temps, de plus en plus, avec nos appareils, nos téléphones, là. Et en même temps, il y en a, c'est une photo. Puis il y en a, c'est une trace. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, à la surface de la pellicule, il y a une magie qui transcende la réalité, il y a quelque chose qui fait que... Parce que c'est quand même... L'appareil photo, il est quand même assez ingrat. Enfin, ingrat dans le sens où on ne le contrôle pas. Il y a souvent des choses qui sont liées au hasard, qui interviennent dans l'image. C'est-à-dire que nous, c'est un peu l'image que je vous ai mise en préambule. L'appareil photo, la main de l'homme, elle appuie uniquement, à la différence du peintre ou du sculpteur, où le corps est en jeu. Avec la photo, le corps est peu en jeu. On peut à la rigueur se baisser, mettre l'œil. Maintenant, on ne met même plus l'œil derrière le viseur. Mais donc, il y a une part où le photographe ne sait pas ce qui va... Il y a toujours un endroit où le photographe ne sait pas ce qui va apparaître derrière, sur son négatif. Et en plus, après, il va y avoir la chimie du laboratoire. Bon, alors maintenant, c'est les scans, mais c'est une autre manipulation. Et puis ensuite, il va y avoir le cadrage, le recadrage, l'installation avec ou seule de l'image, du blanc autour ou pas de blanc. Enfin, il y a tout ça qui fait que la photographie, elle est finalement inépuisable. Alors, je vous avouerai que parfois, moi, j'en ai un peu marre. Il y a des fois où j'en peux plus de la photographie et que du coup je m'intéresse à la... Parce que j'aime quand même beaucoup la peinture et la sculpture, enfin les arts plastiques. Donc j'écris aussi de temps en temps pour les arts plastiques et pour me distraire, pour m'éloigner un peu de la photographie, pour ne pas redire les mêmes choses, pour... je ne sais pas, voilà. Donc c'est vrai que parfois on tourne un peu en rond, enfin j'ai l'impression de tourner un peu en rond ou de dire ce que j'ai déjà dit, donc je vais me nourrir d'autres choses. Alors là je vais donc vous parler du dernier travail que j'ai fait, qui est le dernier article que j'ai fait, qui est tout à fait autre chose. Là c'est Robert Adams, son exposition va commencer, elle a commencé... On est quel jour aujourd'hui ? Elle commence ce soir. Tiens, le vernissage, c'est là, ce soir, au Jeu de Paume, un autre lieu de la photographie à Paris. Et Robert Adams, pour moi, c'est le grand paysagiste américain. bien que sa photo soit entièrement en noir et blanc. Il ne fait pas du tout de couleur. Et il fait depuis 40 ans des paysages. Alors Robert Adams, lui, je n'ai pas pu le rencontrer. Il ne, par exemple, c'est le genre de bonhomme qui ne viendra pas à son vernissage. Il n'en a rien à faire. Il fait des photos, il fait des livres, beaucoup. Il a fait 40 livres jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ce qui l'intéresse, donc, lui, c'est le livre, parce que la photographie, pour lui, c'est vraiment un plaidoyer en faveur de l'écologie, en faveur de la nature, pour témoigner des changements, de l'envahissement de la ville de la ville qui s'étale et qui transforme, qui souvent gâte pour lui le paysage. Donc il a énormément travaillé sur le paysage américain. C'est un monsieur qui n'est pas arrivé à la photographie tout de suite. Il a commencé par... c'est un professeur d'anglais, de littérature anglaise. Et en fait, il est très, très cultivé. J'ai quelques livres qui existent, traduits en français, témoignent d'une culture absolument phénoménale, en tout cas littéraire. Et Robert Adams, un jour, il fait une conférence, un peu comme je fais là, et puis on lui dit, mais sur le paysage. Sur Colorado Springs, et on lui dit, mais tu veux pas aller faire quelque... Il faudrait que tu nous montres des photos de Colorado Springs, c'est là où il vivait. Fais des photographies, et puis pour illustrer le paysage. Et du coup, il fait des photos, et puis il trouve ça pas si mal. Il dit, ah tiens, avec la photographie, on remarque des choses, et puis il se met à faire de la photo justement pour étudier le paysage et lui c'est son outil, c'est son intermédiaire pour l'appareil photo, c'est son intermédiaire pour voir le paysage. Il va étudier à la bibliothèque bêtement tous les vendredis, je crois j'ai lu qu'il allait tous les vendredis étudier l'histoire de la photo, et puis il va étudier aussi la technique photographique parce qu'il fait partie aussi de ces photographes qui veulent absolument tirer leur photographie. Parce que c'est important et ça fait partie de la photographie. Donc il va étudier la technique photographique, il va tirer ses photographies. Alors lui, pareil, il a des formats. Les images, là, on les voit en grand. En réalité, elles font 15 par 15 quand elles sont format carré, 20 par 20. Enfin, les formats sont très, très modestes parce qu'il dit « je veux que les gens s'attardent sur le paysage, s'avancent devant la photographie pour la contempler et pour la détailler. » Donc il a un protocole très précis pour montrer ses photographies. Et donc, voilà, il va travailler sur tout l'Ouest américain pendant, je crois que c'est pas loin de 40 ans maintenant, parce qu'il n'est pas tout jeune. Et il ne viendra pas au vernissage parce qu'il n'en a rien à faire. Donc voilà, là, c'est les puits de pétrole. Et alors, il a vraiment toute une théorie sur le paysage. Pour lui, c'est le paysage, c'est ça doit être. Enfin, la photographie peut être rédemptrice. On oublie le tas. Rédemptrice. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je veux pas faire de photos accablantes sur la destruction du paysage. Je veux pas montrer l'horreur de cette destruction-là. Je veux que dans mes images, quoi qu'il arrive, il y ait de la beauté. C'est-à-dire que par le beau, je vais pouvoir aussi bien, et même si ce n'est mieux, témoigner de la destruction et des ravages de l'industrialisation et voilà, sur le paysage. Donc il a tout un discours comme ça. Et je vous disais tout à l'heure, il est très étrange comme monsieur, d'après ce que j'ai pu en comprendre. Lui aussi, alors, il parle beaucoup du beau. Il est très religieux. Enfin, on sent dans ses écrits, ses études, j'ai perdu le mot. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il avait fait le séminaire, voilà. On le sent vraiment. Moi, je trouve qu'on le sent. Je sais pas, tu as lu, toi, le beau? Ah bon, d'accord. Eh bien, voilà, c'est très, très troublant parce que j'aurais bien... Par contre, lui, j'aurais bien aimé le rencontrer pour lui poser la question de s'il croit en Dieu. Et comment éventuellement la photographie peut témoigner de son. Parce qu'il dit qu'il espère beaucoup, beaucoup dans l'homme néanmoins, même si s'il pense qu'on va à la crise. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si j'ai pas passé une heure, hein. Je vais boire un coup. Pas tout à fait. Non, il est quelle heure? 3 quarts d'heure. Non, non. Ce que je voudrais dire, en fait, ce que j'aimerais, c'est que moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est face à au net, par exemple. Comment on va continuer à être critique? Comment on va continuer à parler des choses? Alors moi, je parle de la photo, évidemment, mais je pensais à ça dans le train. Je me disais, finalement, moi, Télérama ou un autre journal, on a des articles qui sont réunis, on a une communauté qui aussi participe et qui fabrique ce journal depuis longtemps maintenant. Et on a un objet, on va ouvrir, on va regarder, on va. Moi, mon article va peut-être donner envie aux gens d'aller le voir, et puis cet article va passer de main en main. Et aujourd'hui, si jamais je dois m'intéresser à des choses, et si je vais sur le net, je vais faire plein de détours. Et puis Anne, vous pareil, vous allez faire plein de détours. Et si on prend toutes les pages que je vais aller consulter, si on les sort, si on les imprime, si vous prenez toutes les pages, on va avoir 2 journaux différents. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans ces journaux? Alors, est-ce qu'on va être certaine, par exemple, pour ce qui concerne, prenons Robert Adams, alors on va avoir des infos fausses, comment on va savoir qu'elles ne sont pas très justes? On va avoir des points de vue différents, lénifiants, inintéressants, passionnants. Et comment faire le tri de tout ça? Et moi, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le métier de critique? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on est dans un espace où on like, comme dans. Voilà, où on love. Et moi, je suis encore plutôt du côté de je love. C'est-à-dire que j'ai envie vraiment d'être en empathie avec mon sujet, de réfléchir, de le mettre en relation avec d'autres choses, d'offrir ce travail-là, qui est un travail très modeste, parce que moi, je suis pas une théoricienne. J'ai vraiment envie de mouiller, moi, parce que je trouve que, bon, il faut y aller des fois, parce que. Moi, je me rappelle quand j'ai vu des photographes Gursky, par exemple, le photographe Gursky. On y va, on parle d'Adorno, quoi. Oh, ouais, ok. Donc des fois, et puis, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vous regardent, vous êtes sympathique, mais enfin bon, mademoiselle, vous venez m'embêter là pendant 1 heure, mais vous avez quoi exactement à me demander? Donc il faut y aller, puis il faut ramener de la matière, puis il faut écrire son papier, et puis voilà. Et donc tout ça pour dire que je sais pas, c'est une question que j'ai envie de vous poser, moi, plutôt aux jeunes étudiants. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la critique? Comment vous l'envisagez? Et puis vous voilà, je pense qu'on peut discuter maintenant. Je vous en prie. On peut discuter de, je sais pas, de tout.
C'est une vraie bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on attend de la critique?
Ouais.
Je t'en remercie parce que c'est vrai que en t'écoutant, je me disais que s'il y a un métier où on parle des espaces d'exposition et de leur importance parmi les textes qu'on peut lire sur la photographie, les gens qui parlent des photographies, qui est peut-être la seule réalité de la photographie, qu'elle est plurielle et que ce sont des individus et qu'on les voit dans des espaces où leur aménagement implique comme tout montage un sens particulier. Je me disais finalement que c'est dans les critiques, dans les comptes rendus d'expo, qu'on va entendre parler de l'accrochage.
Mais je trouve qu'on n'en entend pas parler suffisamment, moi.
Je suis d'accord.
Je trouve que c'est une partie. C'est une partie voilà, c'est une partie du tout. Et que si on ne parle pas de ça, on parle beaucoup du sujet, et c'est un peu comme les critiques de films. C'est-à-dire que moi, des fois, je râle après les journalistes de Télérama parce qu'ils nous racontent la fin du film avant de... Bon, alors, ils nous parlent aussi beaucoup de l'image. Hein, faut pas qu'ils exagèrent parce qu'à Télérama, il y a quand même... C'est leur spécialité, si j'ose dire. Mais c'est vrai, ou à Télérama ou ailleurs, mais quand on voilà. Et la photographie, comme c'est soi-disant la réalité, on a tendance à parler des images, à parler de leur contenu, de leur histoire, de la narration, mais pas de tout le reste. Et en fait, la photographie avec un grand P, aujourd'hui, c'est un objet, la photographie. C'est pas qu'un cliché, c'est vraiment un objet. En plus, c'est un objet qui a une valeur maintenant, mercantile. Donc, on aurait tendance aussi à parler beaucoup de ça, c'est-à-dire à parler du prix des choses, et puis à un peu oublier le fond.
Est-ce que dans il y a beaucoup de choses en fait que j'ai envie de te poser, mais dans les images que tu as montrées et dans le cadre Robert Adam, ça se justifie en plus. Ce sont des petits formats. Tu as montré l'argentique, du noir et blanc. Je sais que tu as aussi écrit sur Antoine Nagata.
Ah oui.
dont la scénographie était tout à fait différente au bal, tout à fait exceptionnelle. Peut-être tu peux te dire
c'est
pourquoi
dommage,
tu as
pensé,
choisi des petites photos noir et blanc. Hein? Et est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi plutôt ces...
En fait, j'ai choisi, mais Antoine Agata, j'y ai pensé. J'ai choisi les trois derniers papiers en fait que j'avais fait, parce que je ne sais plus après comment c'est un peu écrasé au journal. Enfin, c'est mis quelque part, mais c'est plus difficile pour y accéder. Oui, Antoine Agata, qui est un photographe qui est un peu de la même école qu'Anders Petersen, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit pour la photographie et qui vit avec la photographie, qui s'implique énormément dans son travail, et c'est compliqué. Antoine Nagata, et Antoine Nagata, il a beaucoup travaillé sur la drogue, les prostituées, et son accrochage à lui, il inonde les murs de photographies. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'exposition, on est au milieu, on est à la place d'Antoine Nagata. C'est-à-dire qu'on est dans les dizaines de chambres qu'il a traversées, on est face aux endroits les plus glauques qu'il a traversés, c'est souvent la nuit. Et donc lui, il a choisi de montrer son travail, en tout cas la dernière fois, parce que c'est pas tout le temps comme ça, en immergeant le spectateur. Et c'est très surprenant. Ça déroute beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en vont, qui supportent carrément pas, qui supportent pas ce genre de... Mais pour le coup, son travail étant tellement... Il est assez violent, pour pas dire moins, très violent. Du coup, il met le spectateur dans une position d'agression. On est un peu agressé comme ça. Mais il avait... rapporter des paroles de prostituées à travers le monde. Il a été dans plusieurs pays, en Asie, au Brésil, en Afrique du Sud. Et il avait, dans le cas de l'exposition, il avait mis une énorme pile de papier sur laquelle il avait rapporté des phrases de prostituées. Et on sort de là, on va boire un coup. Parce que ça, c'est vraiment... Mais voilà, je pense qu'il a du coup, il a atteint son but. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment, il est dans un désespoir féroce, quoi. C'est quelqu'un qui est terriblement désespéré. Et il est cet homme qui se drogue, il est cet homme qui va voir les prostituées. Il n'est pas très vieux, hein, Antoine, il a une cinquantaine d'années. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais pu vous montrer, ça aurait été intéressant. C'est couleur et noir et blanc, il fait.
Ce que j'avais trouvé intéressant lors de cette exposition, je sais que ça n'a pas grand rapport avec la conférence, mais c'est que toutes les photographies étaient côte à côte et il y avait plusieurs thèmes, dont les prostituées, la guerre aussi. Enfin, c'était
oui, il avait remis des... C'est vrai. J'avais oublié ça, oui.
Et ça faisait aussi une sorte de mosaïque, en fait, parce que les couleurs se mélangeaient aussi, ça se fondait ensemble.
Et les thématiques, c'est-à-dire que la violence, c'était soit la violence... politique, c'était, je crois qu'il avait travaillé en Palestine. Mais ces images, c'était des photos faites en Palestine. C'était une résidence qu'il avait faite. Soit la violence vraiment politique, la violence de la guerre, à côté de la violence des femmes. Et il avait aussi un mur, je me souviens maintenant, où il avait mis plein de photos de disparus, de prostituées, je crois. C'était ça. Et donc, il y avait ces différents niveaux qui étaient mis les uns à côté des autres, ouais, et qui dialoguaient les uns avec les autres. et c'était vraiment impressionnant comme exposition.
Du coup, c'est lui qui avait décidé de la scénographie du lieu.
Oui. Oui, c'est lui qui avait décidé. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la critique? Moi, je sais pas, hein, parce que moi, dans quelques années, il va falloir que, dans pas très longtemps, on dit beaucoup que les journaux vont disparaître, donc je vais devoir aller sur le web, et puis on fera like ou pas.
Anne-Cécile, on a dit que le responsable de l'iconographie, Libération, tenait ce discours-là.
Oui, Luc Briand, oui, est venu l'année dernière et justement parlait de cette transition qui n'en était pas une à l'époque, mais là on sait avec l'actualité que c'est une question qui est brûlante, quoi.
Oui, moi je voulais juste vous demander si vous faites vous-même de la photographie, si ça vous donne envie ou si ça vous décourage d'en faire.
J'en fais un peu, je fais de la photographie familiale. Et je fais du paysage aussi. Mais oui, j'en fais un peu. Mais bon, j'ai pas mon appareil. J'avais un appareil argentique qui est cassé. Et puis voilà, maintenant c'est trop compliqué de trouver les endroits pour faire développer les pellicules. Il n'y a plus les Fnac Service. Il y a deux laboratoires à Paris, donc ça, c'est un peu compliqué, mais j'en fais encore un peu. Je fais comme tout le monde avec mon téléphone, des photos, des traces, voilà.
Moi, j'ai une question par rapport à l'écriture. Tu disais que parfois tu en avais assez de la photo, et c'est vrai qu'on imagine, il y a les œuvres que tu aimes et que tu as envie de défendre, et puis on imagine aussi qu'il y a l'expo dont il faut que tu parles parce que c'est toi qui est chargé de cela. Et j'avais une question qui est peut-être très intime et peut-être difficile, peut-être sera-t-il difficile de répondre, mais est-ce qu'il y a des mots ou des tournures de phrases contre lesquelles tu te bats quand tu écris sur la photo? Est-ce que tu as des tics d'écriture sur la photo, des phrases qui reviennent et que tu repousses en disant mais je reviens. Est-ce qu'il y a ça?
Il y en a, mais alors je vais pas les avoir là comme ça. Non, j'évite. Alors c'est une chose que j'ai remarqué, par exemple, les jeunes journalistes, hein, école de journalisme, on a des trucs. Ils ont des trucs. Et moi, j'essaie le moins possible d'avoir de trucs. Alors j'ai parfois une écriture qui est un peu littéraire. Je vais parler du nuage, je ne sais plus ce que j'ai dit dans Robert Adams, enfin, la mousse, le nuage, je vais utiliser des termes un peu littéraires. À Télérama, ça passe. Je ne suis pas sûre que ça passe partout. Je ne suis pas sûre que ça passerait partout. Non, j'essaie par exemple, sur le web, c'est une chose que j'ai remarquée. Il y a parfois des articles qui sont transférés sur le web et qui ne sont pas présentés de la même façon parce qu'il faut des entrées. Il faut qu'on puisse rentrer tout de suite dans l'article, on ne peut pas prendre son temps. Et donc, quand il s'agit de faire des raccourcis, et je m'étais mise un peu en colère il n'y a pas très longtemps, le photographe, pour aller vite, avait utilisé une figure de style qui est, je ne l'ai pas en tête là, mais un truc que le photographe en question n'a jamais dit. Enfin, c'est loin de lui, il ne peut pas parler comme ça. Et moi, je ne peux pas avoir transcrit cette chose-là, mais parce que c'était efficace. Et voilà. Non, moi, j'essaie de ne pas trop... Non, pas trop.
De ne pas trop être efficace.
De ne pas trop... Non, mais de... Ouais, j'essaie d'être dans la description, d'être plutôt dans l'émotion. Quand je regarde une photo, je ne sais pas, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a, celle... Qu'est-ce qui se passe dans cette image? Le ciel, il occupe les deux tiers de l'image. Il y a cette fumée, puis en même temps, c'est beau. Puis voilà, mais non, j'essaie en tout cas, je fais mon possible pour pas trop.
Oui, pour céder la place aux images. Ouais.
Ouais. Et puis au personnel, j'aime bien raconter les histoires, je crois. Les histoires des autres, celles qui me sont confiées par les autres.
Ah, il n'y a plus de photos.
Hop. C'est celle-là que vous voulez ou vous en voulez une autre?
Une autre. Non, tu disais que donc tu ne savais pas si dans quelques temps tu ne seras pas obligé d'écrire sur le web.
Je le fais déjà.
Tu le fais déjà. Il y a d'autres critiques. Je lis des articles dans Libération, par exemple. Donc, Dieu aura peut-être son âme très bientôt, enfin pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres critiques dans d'autres hebdos? Vous êtes nombreux encore à le faire sur papier, ce travail, enfin principalement sur papier?
Bah écoute, il y a encore toute la presse imprimée, oui.
Non, mais le Point, par exemple, le Nouvel Obs, etc., ont des critiques photos?
Peu. En fait, il y a peu. Très curieusement, il y a le journal du PC, j'oublie toujours son nom.
L'UMA.
L'UMA. Il y a Magali Geoffrey à l'UMA, qui est formidable, qui a une chronique sur la photographie. Il y a La Croix, Armel Canitro. Enfin, c'est des journaux très confidentiels, quand même. Il y a Le Monde. Mais pas si souvent que ça, quand on regarde bien dans Le Monde. Libération, Brigitte Ollier, elle en fait de moins en moins.
Oui.
Finalement, Télérama, on est un des rares endroits où il y a encore assez régulièrement de la photographie.
Nouvelle Obs et...
Je sais pas trop.
Et Marianne, il n'y a plus personne?
Non. Il y avait Frédéric...
Plus personne, ni au théâtre, ni nulle part. Non, voilà, c'était juste une question. Ça veut dire que les autres, ceux qui font des critiques, aujourd'hui, la plupart du temps... C'est sur le web.
C'est de plus en plus sur le web. Mais moi, j'ai un souci, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur le web, comment on retrouve les choses. C'est-à-dire qu'un journal, on l'a en main. Moi, si je ne vous dis pas que j'ai écrit un papier sur le web, comme c'est écrasé immédiatement...
Mais ça, c'est un autre débat, c'est comment circule l'info et comment on sait qu'il y a Adam...
Bah oui, c'est le fameux nuage, fameux cloud.
Comment tu sais ça sur ton écran?
Donc, et puis, quand tu parlais des tournures, c'est-à-dire que c'est des phrases qui sont, ce que je disais tout à l'heure, moi, je pense, dans l'efficacité, et que peut-être, je parlais de ça hier soir, j'ai un fils qui a votre âge, et il me disait, mais on ne pense plus, en fait. Ce qu'on nous demande, c'est de... Voilà, on vous donne l'info, et puis on vous donne plus de matière pour penser, de moins en moins, en tout cas. Et que c'est peut-être ça le danger du... Alors, ça ne veut pas dire que sur le web, il n'y a pas des choses où il y a de la matière quand même. Hein. Mais il faut la trouver, il faut... Et donc, je ne sais pas comment faire pour continuer à donner envie, à avoir un point de vue, avoir plusieurs points de vue sur les choses. À donner envie d'aller voir des expositions, puis de comprendre un tout petit peu. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir dit les choses essentielles sur Robert Adams. Je vais peut-être juste donner deux, trois choses qui vont faire que, quand on va être devant l'expo, on va se dire « Ah oui, d'accord, je comprends. » Donc, voilà. Et puis après, aussi donner envie d'aller plus loin, si ça nous intéresse. Et puis en lisant autre chose, « Ah ben voilà, ça complète ce que j'ai lu par ailleurs. » Mais je ne sais pas comment d'une lecture horizontale, qui est celle du web, où tout avis vaut, tout le monde donne son avis, comment savoir si c'est un avis avisé ou pas? Ça, on ne sait pas. Au moins, dans un journal, on sait. On sait que c'est un journal, que le Figaro, c'est le Figaro, que le Monde, c'est le Monde, que Libé, c'est Libé. Donc, on a des repères, on sait ce qu'on... Là, sur le web, ça demande quand même pas mal d'efforts, pas mal. Sinon, c'est la facilité, c'est-à-dire qu'on lit, puis on clique, et puis on donne son avis, on like, on like pas. Je sais pas, je suis très perplexe moi. Et en même temps, je trouve que c'est formidable. Enfin, c'est un outil qui est formidable, mais je sais pas comment on peut s'en dépatouiller. C'est une vraie question. Et si vous avez des, moi je veux bien que vous me donniez votre avis au fond là, les jeunes gens.
Ils vont
comment
la donner.
Ils vont oui, la donner. Oui, mais c'est vrai.
Donc je voulais vous je pense que ce qu'on attend d'une critique en fait c'est d'avoir envie d'aller voir quelque chose, d'avoir une exposition, donner les clés, je ne sais pas. Ce qui m'a beaucoup étonnée dans votre intervention, c'est le fait que vous n'êtes pas distancié par rapport à l'objet. C'est l'impression que j'ai dans votre discours. Ça veut dire que vous avez une relation très affective à la photo. Et quand on parle d'écriture et de photographie, on peut parler de rapport à l'image en disant le rapport à l'image, c'est au texte, c'est de ne pas doublonner, si je puis dire, ce qu'on voit. C'est-à-dire que le discours soit, soit autre, et je pense que c'est ce que vous faites. Je pense que vous n'êtes pas seulement critique, je pense que vous êtes, vous êtes aussi écrivain. Mais ce qui m'a étonnée, c'est le rapport que vous avez avec, avec les photographes. Vous parlez d'eux, vous parlez d'eux, et par exemple, quand on parle d'un écrivain, moi, ça ne m'intéresse pas quand les écrivains français, je me suis un peu engueulée avec des gens de France Culture là-dessus, parlent de leur histoire constamment, constamment de leur ego.
Alors que moi...
Et là, vous ne pouvez pas passer outre l'ego du photographe pour qu'il soit particulier. Parce que sinon, toutes les photos qu'on voit, si on ne connaît pas le photographe, moi, je ne connais pas le photographe que vous avez cité, pas tous, je ne peux pas dire c'est un tel. Je peux pas, toutes les expos de photos qu'on voit, si on les additionne, c'est souvent les mêmes sujets, les portraits, les États-Unis, c'est souvent le fin fond des États-Unis, etc. Donc, c'est une façon aussi de donner vie à une image qui pourrait être banale à force d'être universelle.
Oui. Mais justement, moi, je pense que chaque travail, chaque série, chaque photographe est singulier et que ça passe par sa photographie. Donc, moi, je fais ce détour-là. C'est-à-dire que pour parler d'une photo, je vais passer par le photographe. Là, cette photo, elle ne peut pas être faite par Antoine Lagata, par exemple. Si, elle pourrait être faite par Antoine, mais par Robert Adams, non, elle ne peut pas. Ou par... parce que c'est la vie de ce mec-là. Il est là, il adore, il est le nez devant, il va boire des coups jusqu'à plus. Et que si on veut comprendre pourquoi, comment il a réussi à avoir ça, il faut qu'on sache... Alors après, on peut parler de photographie, on peut parler de cadrage, on peut parler du noir, on peut parler de l'épaisseur, on peut parler de plein de choses. Mais moi, je pense que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter ça. C'est de raconter... Oui, voilà. Parce que... Et puis, je me dis, j'ai la chance de l'avoir rencontré, donc il faut que je partage ça. Parce que qui rencontre Marc Cohen à Paris, il y a peut-être eu trois articles en France... Je me dis que c'est la moindre des choses que je... Après, on n'est pas obligé de le lire. Hein. Mais je veux dire, vous voyez, je trouve que ça fait partie de mon travail d'être le médiateur entre le lecteur et le photographe.
C'est pour ça que ça passe. Ouais. Je crois qu'effectivement, on peut... Enfin, voilà, quand on travaille sur la photo, on peut reconnaître à certaines caractéristiques l'œuvre d'un photographe et en se trompant parfois, mais c'est vrai qu'il y a quand même des caractéristiques stylistiques dans la photographie qu'on peut repérer. Mais je crois que vraiment la particularité, la singularité du métier de critique photo, c'est qu'elle est très proche du métier de photographe en une chose, c'est qu'il n'y a pas de photographie sans... Enfin, la photographie est la trace d'une rencontre. Il faut qu'il y ait deux corps dans un même lieu pour qu'il y ait photographie. Et donc ça, c'est la réalité de la photo. Et je crois que ce que tu montres, c'est que dans le métier de critique photo, c'est aussi l'indice d'une rencontre. Je crois que c'est vraiment ça qui fait la singularité de cette écriture-là.
Plus que le cinéma, par exemple, tu crois ?
Que la critique cinéma, oui. Oui, parce que la critique photo que tu es, contrairement aux spectateurs de cinéma, a des jambes qui arpentent l'espace d'exposition, qui doit se baisser pour voir telle image, qui doit se lever le nez, trouver que là c'est mal éclairé, etc.
Le cinéma, c'est oui.
Le critique photo, il a un corps. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant, en critique photo, les espaces d'exposition qui sont mis en valeur et pourquoi la scénographie apparaît là alors qu'elle apparaît si peu ailleurs.
Ouais.
Et du coup, alors au cinéma, la question ne se pose pas parce qu'on ne se demande pas comment est fichue la salle quand on, quand on rentre. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le texte de la critique photo est vraiment au plus près de l'expérience du regardeur. Et c'est bien celle-là, l'expérience de la photographie.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est comme la photo, comme l'image de Denis Roche, c'est-à-dire... je vous l'avais mise celle-ci ou pas ? Non, voilà, c'était les livres. Oui, je sais pas, il y a plein d'images que vous n'avez pas mises, en fait. Voilà.
Ah, je précise au passage pour les étudiants qu'il ne faut pas confondre Robert Adams avec Ansel Adams.
Ouais. Voilà, donc ça c'est j'ai fini sur un livre parce que voilà, pour vous montrer un exemple de voilà.
Bonjour. bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence que j'ai trouvée vraiment très intéressante. On parlait de critique tout à l'heure. J'avais plus une question en fait, justement sur l'approche. Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité de l'approche critique française? Et si oui, est-ce que vous vous y retrouvez ou est-ce que justement vous pensez que vous êtes plutôt en marge ou en porte-à-faux, je ne sais pas.
Alors, je vais avoir du mal à répondre parce que je ne connais pas vraiment la critique étrangère, c'est-à-dire que la critique allemande ou anglaise. Moi, je pense qu'on a une spécificité, oui. D'abord, on a une spécificité qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on est le premier pays au monde à avoir autant de photographes, autant de galeries, autant de festivals, autant d'écrits sur la photographie. Je veux dire, on est juste le pays de la photographie. Donc, et en même temps, il n'y a pas tant d'articles que ça sur la photographie, mais c'est vrai qu'on est... c'est incroyable, quoi. On est je crois que, voilà, on ne peut pas nous battre. Donc ça, je pense que... Et puis sinon, si on regarde, par exemple, la façon dont on parle du cinéma, avec les cahiers du cinéma, avec Positif et tous ces gens-là, c'est-à-dire la façon qu'on a en France de parler de l'image, qu'elle soit fixe ou animée, je pense que c'est vraiment une spécificité française, oui. Et par exemple, un Hervé Guibert, c'était un écrivain, et il parlait de photographie magnifiquement. Moi, je rêverais d'être une Hervé Guibert. Mais bon, je continue à faire des expositions, à écrire des textes de catalogue et d'autres choses, parce que j'aime bien aussi travailler avec les photographes et mettre en espace les choses. Mais Serge Danet, c'est pareil. Finalement, si on prend les... Et Cojol, si on prend les grandes... Alors, il écrit bien aussi, Cojol. Voilà. Donc, je pense que c'est... Oui, par rapport à l'image, par rapport à l'art, on est... On est réellement assez performant en France. Bon, pas moi, c'est vrai que c'est assez étonnant, je crois. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Anne-Cécile. Je pense que après, je sais pas, je connais pas les autres critiques, mais.
Merci. Oui, non, effectivement, il y a une tradition française. Oui, tu l'as dit. Puis c'est vrai qu'elle est née au milieu des années 70 en France. Et peut-être a-t-elle en ce moment un petit déclin en termes de presse papier, mais les blogs, les sites consacrés à la photographie sont extrêmement nombreux. Et si la France est en effet le pays où l'expansion de la photo a été si énorme, justement à partir des années 70, les États-Unis avaient quand même pas mal de choses, mais c'est New York, c'est pas tous les États-Unis. C'était New York pour commencer avec le MoMA. En France, on a effectivement, comme tu le disais, cette multiplicité de lieux. Cela dit, ça se développe énormément, mais ça, tu pourras en parler en Europe, parce que tu voyages aussi beaucoup sur différentes expositions internationales. Ça, tu peux.
Non, mais ça se développe. Mais pour la partie critique et art, je sais pas. Là, c'est vrai que je suis allée à Rotterdam, mais je lis pas. Je lis pas le flamand, donc je sais pas. Non, je sais pas. Je pense que c'est assez rare en France. Enfin, je veux dire, c'est assez unique en France. Oui. Et voilà. Et l'intérêt du public pour. Ouais. Ah ben là, en ce moment, j'ai regardé comme ça. Je crois qu'il y a une trentaine d'expositions photographiques et pas des moindres. Il y a Raymond Depardon, Henri Cartier-Bresson, Robert Franck. Anders Petersen, Denis Dailleux, tous. Ils sont tous là.
Mathieu Pernaud aussi.
Mathieu Pernaud, bien sûr, oui, Mathieu Pernaud. Avec, donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, tout à l'heure, je crois que tu m'avais posé... Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Non ?
Oui, d'abord, je vais vous répondre par rapport à comment je vois... mon idée personnelle sur le rôle du critique.
Oui.
Et c'est peut-être comme toute approche avec un œuvre, il y a une partie des techniques, l'artisanat du métier, comme la peintre, qu'est-ce que c'est que l'épaisseur, profondeur, cadre, etc., que pour quelqu'un qui ne connaît pas, et le critique, il est parmi les spectateurs qui regardent. Et il y a ce rôle que vous avez souligné, le tri, qui va sélectionner, qui va révéler parmi l'ensemble. Et aussi, la chose la plus importante aussi, c'est comment ne pas perdre l'étonnement naïf, la rencontre de la première fois avec la chose. Et après, la question que je veux vous poser, bien sûr, on parle du web, on est inondé par les images. Je pense encore le rôle du critique devient plus difficile, puisque nous sommes inhibés par l'image. On dit ouais.
Et puis on est noyé aussi.
On est noyé, donc du coup, on est...
L'image nous noie et nous, on est noyé.
Comment vous voyez, vous, le rôle futur, vous qui... la métamorphose du métier du critique s'élabore. C'est-à-dire comment on peut être de nouveau... puisqu'il y a un modèle qui s'impose maintenant.
Oui.
Un modèle simplé du regard. Mm. C'est le changement du regard sur le...
Je pense que peut-être il faut aller dans d'autres niches qui sont les blogs, les choses comme ça. Je ne sais pas. Moi, j'avoue que je ne suis pas très bonne. Je suis encore... pas très bonne avec... Je ne fais pas beaucoup sur le web. Je ne suis pas du tout sur tous les réseaux sociaux. Je suis vraiment... je suis artisanale encore. Je discute, je vais voir les gens, je vais voir les expos. Donc, je suis pas très à l'aise. Mais je me dis que j'ai pas fait une formation de journaliste. Peut-être je vais quitter le journalisme, finalement. Je vais peut-être faire plutôt des textes pour des bouquins. Je vais peut-être plutôt vraiment définitivement travailler pour des expositions. Je vais peut-être laisser la place aux autres gens qui savent. Alors si, j'ai demandé très curieusement. Non, j'ai pas fini. Parce que j'ai demandé une formation au journal, parce qu'il faut qu'on se forme au web. Hein. Là, ça rigole pas du tout, on est tous obligés de se former. Et moi, j'ai demandé une formation pour faire une pomme. Une pomme, c'est une petite œuvre multimédia, ça s'appelle comme ça, je trouve ça trop joli. Et donc, je vais réintroduire le son, ce qui est mon premier amour, puisque j'ai fait ma maîtrise sur l'environnement sonore. Donc, je vais réintroduire la voix. Maintenant, je ne vais plus non seulement leur demander, leur poser la question s'ils sont heureux, s'ils croient en Dieu. Je vais la poser, puis je vais la faire. Non, je rigole. Mais voilà, je vais réintroduire cette dimension sonore. Je me dis que le son, c'est une matière dont on ne se sert pas bien, et peu, sauf pour la musique, mais en tout cas dans la communication, pas très bien. Et j'aimerais bien travailler là-dessus. Mais bon, j'ai du boulot. Voilà, ma réponse, ça serait ça. Ça serait plutôt de trouver, je vais m'adapter, quoi. Je vais trouver une autre forme. Une autre forme de communiquer mon intérêt pour tel photographe, laisser parler. Par exemple, c'était une chose à laquelle j'avais pensé un moment. J'avais fait un travail pour les éditions Filigrane, ils avaient fêté leurs 20 ans, je crois. Et il m'avait demandé de faire des portraits sonores. Et j'avais enregistré plein de voix de photographes. Et on avait créé comme ça un environnement sonore avec la voix. Alors j'avais posé toujours les mêmes questions à tous. Et puis il y avait une exposition. Et c'était pas les 20 ans, parce que c'était il y a 10 ans peut-être. Il y a quelques années, donc ils sont pas très vieux, Filigrane. Et... peu importe l'anniversaire, mais c'était un anniversaire. Et ça, j'avais trouvé ça vachement intéressant d'avoir la voix. Et je me disais, mais en fait, les photographes, c'est les gens qu'on entend le moins, finalement. On entend les écrivains, on entend... Oui, on entend toujours Raymond Depardon. mais c'est les gens qu'on entend. On n'entend pas leur voix. Et alors, ils ont des choses vraiment passionnantes à raconter, en fait. Et c'est bien d'avoir la voix de... La voix des photographes, le timbre, d'avoir les hésitations, d'avoir, voilà, en face d'une image, d'avoir la voix. Donc je vais peut-être m'attaquer à ça, aux petites pommes.
Frédéric Chapuis va passer de l'ère argentique à l'ère numérique.
Voilà, bon ben...
Bien, je crois que nous pouvons donc remercier une fois encore Frédéric d'être venu.
C'est moi qui vous remercie, c'était très agréable.
Et je vous donne rendez-vous donc jeudi, même heure, même lieu.
Il y a un jeune homme qui voulait... Non ? Non.
Olivio ?
Oui. Comment introduire le son ?
Est-ce que vous avez des idées ?
Mais je ne sais pas, mais je pense que Je ne sais pas, est-ce que, en visitant une expo, est-ce qu'il faut une voix off? Est-ce qu'il faut emmener quelqu'un? Est-ce qu'il faut créer un son? Je ne sais pas, je vais travailler à ça.
D'accord.